Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Juliette Gadeau, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clémence Salazar, Samuel Bernard, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Pierrick Monsigny. Troisième volet donc consacré à la gastronomie, nous allons parler d'alimentation et d'identité, de la standardisation à la défense de l'identité, les guerres culinaires, c'est notre sujet ce matin. Aujourd'hui l'alimentation n'échappe pas bien sûr au phénomène de mondialisation, à la fois dans nos modes de consommation mais aussi dans notre système productif, et certains produits sont désormais consommés quasiment dans tous les pays de la planète. L'emblème de cette standardisation, de cette homogénéisation, c'est probablement la pizza bien sûr.
Le pot d'anchois.
Le pot d'anchois, l'huile.
Le fromage, les olives. Apparemment, c'est de l'emmental. Mais à Marseille, on emploie beaucoup l'emmental. Mais...
Pizza.
C'est la Provence qui a amélioré, elle a parfumé la pizza davantage.
Pizza.
Voilà une pizza adaptée au goût des Japonais, avec des pommes de terre spéciales et une sauce aux œufs de poisson, du Menteco.
Announcing Pizza Hut's new Applewood smoked bacon.
Sans blague ! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza ?
Franck, le propriétaire, est là depuis 15 ans. Avec son associé, ils ont 57 pizzerias dans le monde. En Floride, en Arizona, en Californie, en Alabama, partout.
Et qualcuno addirittura in America specialmente hanno negato.
Il y a même des gens, notamment aux États-Unis, qui ont prétendu que la pizza n'était pas napolitaine et qu'il fallait attribuer son invention aux Américains.
Et oui, après avoir franchi les mers avec les immigrés italiens à la fin du 19e siècle pour arriver aux États-Unis, la pizza est devenue au fil des années le symbole de la mondialisation de l'alimentation, mais aussi pour certains le symbole d'une forme de standardisation qui se serait diffusée aux quatre coins du monde. La mondialisation nous entraîne-t-elle irrémédiablement vers justement une forme d'uniformisation des goûts et de la gastronomie ? L'hypothèse résiste-t-elle vraiment à la réalité ? S'il est incontestable qu'on a assisté à une forme de convergence de nos habitudes alimentaires, il est aussi incontestable que face à cela, nous ressentons un besoin de plus en plus prégnant de revisiter des récits culinaires traditionnels, quitte à ce qu'ils soient totalement inventés. En effet, les consommateurs exigent de plus en plus de produits locaux et les identités régionales et nationales s'appuient plus que jamais sur les patrimoines culinaires, au point d'inscrire par exemple le repas gastronomique français sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité à l'UNESCO. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui forge une identité gastronomique aujourd'hui ? On va s'interroger ce matin sur la géographie alimentaire et sur ce qu'elle nous dit de l'évolution de nos sociétés et de la manière dont nous construisons, chacun d'entre nous, une certaine identité. Pour ce faire, nous avons invité un géographe, c'est Gilles Fumet, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup Gilles Fumet d'être avec nous. Vous êtes professeur de géographie culturelle à l'Université Paris-Sorbonne, responsable du pôle alimentation, risque et santé, auteur de nombreux ouvrages, manger local, manger global, l'alimentation géographique, l'alimentation de demain, les radis d'Ouzbékistan, et puis le dernier en date, Tsukiji, le marché aux poissons de Tokyo, qui va paraître très bientôt. C'est un marché qui va disparaître.
Le marché va être déplacé.
Déplacé. Ouais.
Et on peut imaginer notre marché des Halles qui aurait migré non pas à Rungis mais à Saint-Michel par exemple.
Ouais. Alors la pizza. Vous avez préfacé un ouvrage consacré à la pizza, Pizza culture et mondialisation de Sylvie Sanchez. Vous vous rappelez quelques éléments sur ses origines qui restent assez mystérieuses, même si on trouve bien sûr des traces de cette fameuse pizza au Moyen-Âge. On a du mal à établir le lieu et le moment exact de ce plat qui reste évidemment très varié. Qu'est-ce qui explique, selon vous, Gilles Fumet, le succès mondial de la pizza ? Est-ce que c'est son goût ? Est-ce que c'est le principe par lequel, justement, on peut l'agrémenter d'à peu près tout ce qu'on veut ? Est-ce que c'est le fait qu'elle est rattachée aussi dans l'imaginaire collectif, quand même, à une cuisine italienne forcément bonne ? Gilles Fumet ?
Tout ce que vous avez dit est vrai, mais le levier principal, à mon avis, c'est qu'elle est passée par les États-Unis. Et qu'elle est arrivée au moment où on a assisté à la fin du 19e siècle à une grande phase de mondialisation de l'alimentation. Et les Américains se sont emparés donc de deux plats qui venaient d'Europe, donc un de Hambourg, qu'on connaît bien, et qui est de la viande. Et l'autre qui est la pizza venant d'Italie. Donc c'est je crois, la capacité des Américains à bâtir un modèle industriel qui va permettre de fabriquer en série des pizzas jusqu'à les surgeler dans les dernières décennies que nous avons vécues. Voilà. Et d'en faire un produit américain parce que en une génération, en quelque sorte, le plat s'est complètement transformé parce que il était essentiellement couvert de tomates, d'ailleurs une plante américaine, et sur une pâte abaissée. Et aux États-Unis, il prend de l'embonpoint, on y met du fromage, on y met de la viande, des lardons, des choses comme ça. Ça ressemble presque à une quiche lorraine. Hein, et c'est ça qui va être mondialisé. Et vous avez raison de dire qu'effectivement, on peut y mettre ce qu'on veut. Et ça, c'est l'avantage d'avoir un produit qui est à la fois générique, mais qui est en même temps qu'on peut personnaliser à outrance. Cela dit, quand même, il y a des best-sellers dans la pizza, la margherita, tous ces consonances italiennes, comme vous l'avez rappelé, sont là aussi pour ancrer ce plat qui vient de nulle part, puisque vous avez
oui, justement, elle vient de nulle part, et en même temps, parce que c'est ça qui est absolument étonnant. On en consomme partout, on l'a dit. On la remanie en fonction des envies et aussi, bien sûr, des produits locaux. On voit même des pizzas au sushi, ce qui nous paraît quand même assez étonnant. Il y a quand même cette idée... On remanie cette pizza et en même temps, elle reste supposément italienne. Vous dites à propos de la pizza qu'elle est forcément binationale.
Oui, tout à fait. Elle est italienne parce que dès lors qu'on prononce le mot pizza, donc on est sur un registre italien, mais ensuite on y met ce qu'on veut. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut ajouter également, qui est l'effort qu'ont fait les Américains pour son transport, pour ses maniements. Et nous mangeons la pizza dans des assiettes et eux mangent la pizza dans du carton et partagée dans des parts qui sont déjà préparées. Et vous voyez quelque chose qui paraît quand même pas très facile à manier. Eux, ils en ont fait avec l'emballage un produit très très souple et très très nomade.
On répète à l'envi, Gilles Fumet, que la mondialisation a entraîné une forme d'uniformisation des goûts. Est-ce que c'est aussi vrai que ça?
Alors, la mondialisation en fait, notre mondialisation a entraîné la fabrication de quelques best-sellers culturels. Donc en Méditerranée, on a tout ce qui tourne autour de la viande qu'on appelle le kebab. On a donc tout ce qui est européen du Nord. Je rappelle que quand même dans burger, il y a Burg qui est la ville en Allemagne, le château. L'imaginaire de la ville médiévale. Et pizza donc renvoie plutôt au pain, à quelque chose de la culture du pita grec, à quelque chose qui est plutôt donc la galette. Voilà. Et puis ensuite on a les nems qui viennent de Vietnam, qui sont des produits que l'on attrape avec les doigts. Et puis on a découvert donc dans la cuisine japonaise quelque chose qui était facile à faire et surtout qui représente une forme d'idéal simplifié de la cuisine, c'est-à-dire du riz avec quelque chose qui va être le sushi et un produit frais. Si possible fabriqué au moins dans sa dernière phase devant le client et qui se mange avec les doigts.
Je reviens sur la question de l'uniformisation parce que vous dites que après quelques années, disons, de travail sur la géographie alimentaire, ce qui vous frappe, c'est que finalement les choses n'ont pas tant changé que cela en termes d'habitudes alimentaires.
Non,
bien sûr,
non.
Elles ont changé un peu, mais pas tant que ça.
Non, parce que nous mangeons un certain type d'aliments en fonction de nos modes de vie. Et si nous sommes un citadin vivant dans des bureaux et ne rentrant pas chez soi, donc forcément nous allons avoir accès à la nourriture industrielle. Si au contraire nous sommes sédentaires, pas forcément paysans, mais par exemple personnes âgées ou quelqu'un qui dans une campagne éventuellement ne va pas au restaurant, eh bien nous allons avoir effectivement là une cuisine locale, une cuisine personnelle, une cuisine familiale. Voilà. Et si nous sommes indiens ou africains et que là la nourriture elle est rare, nous allons être obligés de nous réunir avec la famille quand il y a quelque chose qui est prêt et qui est prêt une fois par jour, deux fois par jour, parce qu'il faut avoir de l'énergie pour faire des pour cuire des choses, il faut trouver toute cette nourriture et donc là on va se mettre par terre autour d'un plat collectif.
Oui, parce que vous êtes intéressé effectivement aux différentes positions qu'on peut adopter pour s'alimenter, donc plutôt assis à table dans le modèle gastronomique européen et chinois, plutôt debout dans le modèle industriel et snacking qu'on va retrouver aux États-Unis, plutôt sur une table basse avec un modèle de repas convivial, et ça on va le retrouver surtout en Asie de l'Est, du côté du Maghreb, ou même carrément par terre dans le modèle collectif qu'on va retrouver en Inde et en Afrique. En fait, à chaque position, on trouve finalement un modèle d'alimentation et d'une certaine manière une certaine culture alimentaire.
Tout à fait.
Qui ne varie pas tant que ça.
Et voilà. Et donc quand vous me dites on parle de standardisation et d'uniformisation, là il faut faire référence au modèle industriel. Puisque c'est l'industrie, c'est un système de production de masse qui vise à faire des profits maximum, et donc qui s'intéresse à cette manière de manger, qui est de mettre de la nourriture le plus près possible de nous.
On va revenir sur cette question du modèle de production, mais encore un tout petit mot sur cette question des positions. Vous avez l'air de douter un tout petit peu, vous, de cette idée selon laquelle, en France, on se laisserait aller vers le snacking, vers le manger debout. Bien sûr que c'est vrai, mais il se diffuse pas, peut-être pas autant que ce qu'on voudrait le dire.
Oui, il y a, on va dire, des pratiques qui sont liées à nos, je répète, à nos modes de vie urbains, qui font que la semaine, nous devons manger rapidement. Nous sommes contraints par les horaires et par le travail. Mais la semaine, en fin de semaine, nous avons gardé des pratiques familiales, des pratiques collectives. Nous offrons des repas à nos amis, des repas que nous allons cuisiner pour eux, et donc cette dimension sociale et qui est donc marquée par cette gastronomie bourgeoise voire royale, elle n'a pas disparu, simplement qu'elle s'est un peu concentrée soit dans les périodes de fête, soit dans les fins de semaine.
Oui, et puis quand on parle de restauration rapide, c'est vrai qu'on pense directement aux États-Unis et à leur fast-food. C'est vrai que la première chaîne de restauration rapide, elle est née quand même aux États-Unis en 1921 avec White Castle. Mais en réalité, on la trouve ailleurs. Quand on voit par exemple les bars à sushi du côté du Japon, c'est pas une américanisation en réalité du Japon, parce qu'il y a une vraie tradition très ancienne du snacking, j'utilise un mot anglais, au Japon. On mange à n'importe quelle heure du jour et de la nuit quasi. Dans la rue, c'est aussi ça.
Le fromage, la charcuterie, ce sont des aliments qui sont formatés et qui sont faits pour être transportés et consommés là où on en a besoin, sur un chantier, dans les bois. Donc, on a eu nos formes de snacking. Alors, vous avez raison de dire que aujourd'hui, avec l'Asie, qui va devenir le grand référent culturel du 21e siècle, on n'a pas vu monter le snacking asiatique, mais il est, on est en train de faire des comptages à Paris, il est sans doute plus important que le snacking américain. Il y a énormément de boutiques qui vendent des produits asiatiques, et dans lesquels le Japon, la Chine et le Vietnam sont très présents. Voilà, et dans des structures familiales.
Alors, on va s'intéresser au modèle de production. On va prendre un exemple. Ces dernières années, il y a une explosion de la consommation d'avocats. Beaucoup de pays ont considérablement augmenté leur consommation. Je pense aux États-Unis, je pense à l'Europe. On parle du Japon, c'est le cas aussi. On consomme de plus en plus d'avocats. Le pays qui a profité beaucoup de cet essor, c'est le Mexique, dans la région du Michoacán. On a des dizaines de milliers d'hectares d'avocatiers qui poussent sur ces terres volcaniques.
Les cultivateurs d'avocats plantent plus d'arbres et détruisent davantage la montagne.
C'est devenu la principale activité de la région, si bien que pratiquement tout le monde espère pouvoir travailler et avoir sa propre propriété agricole.
C'est la seule solution qu'ils ont trouvée, tout déboiser pour planter des avocatiers.
C'est un délit et personne ne respecte la loi. Ça ne date pas d'un an ou de quelques mois, ça fait des années que ça dure.
Nous, on utilise beaucoup de produits chimiques pour augmenter la productivité, mais aussi pour que chaque arbre donne plus de fruits et que ce soit un fruit dont le calibre corresponde aussi aux besoins du marché, notamment des cocktails à base de nitrogène, de phosphate ou de potassium.
Voilà, extrait d'un reportage qui avait été diffusé en septembre dernier sur France Télévisions. Derrière l'explosion, Gilles Fumet, de la production d'avocats, on a un certain nombre de choses. Il y a les dégâts concernant l'environnement, il y a la destruction de forêts de pins, sans parler bien sûr de la faune qui se trouve également menacée, les pumas, les coyotes, etc. Sans compter le crime aussi organisé qui s'est greffé en réalité sur cette économie, à tel point qu'il y a maintenant des milices d'autodéfense qui se sont formées pour défendre les cultures. Ce qu'on voit ici, c'est des conséquences très concrètes et assez néfastes pour le coût de l'augmentation de consommation de l'avocat, et qui pose une question, qui est celle de l'articulation entre la production et la consommation. D'une certaine manière, on se demande lequel conduit l'autre.
Là, c'est très clairement pour l'instant dans l'offre le producteur, mais le producteur il est en phase avec un marché jusqu'à un jour où il y a une rupture qui peut être environnementale, comme vous l'avez dit, la découverte que les produits sont pas sains. C'est le cas par exemple de tout ce qui se passe en Espagne, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Aujourd'hui, c'est assez dramatique parce qu'on dit aux gens ne mangez plus de fraises d'Andalousie, ne mangez plus de ceci, des tomates venant d'Espagne. Donc tout ce modèle qui a été élaboré là, qu'est-ce qu'il va devenir, on n'en sait rien. Donc il y a bien, je crois, un jeu entre des industriels qui tentent de forcer un peu la porte dans laquelle ils peuvent entrer et en même temps des consommateurs qui quand même ont le dernier mot.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on se met tous à manger de l'avocat ?
Là, on est dans un cas clairement de mode. Il y a des modes comme ça. Donc on est dans le cas d'une mode, mais il y a aussi autre chose qui est que l'avocat, on a découvert la rusticité d'avocat et en particulier sa maniabilité du fait qu'il y a une peau, presque une coque, qui permet de le manier facilement.
De le manier, c'est encore la question du transport en réalité.
Oui, exactement, comme les citrons ou les bananes.
Ouais.
Quand vous essayez de comprendre pourquoi on utilise beaucoup les agrumes et les bananes, c'est tout simplement parce que ce sont des produits qui sont protégés par une peau et qui permettent d'être consommés même dans des milieux où il n'y a pas d'hygiène.
Oui, d'accord. Donc, même genre de mode que finalement ce qu'on voit avec le kiwi, par exemple.
Exactement. Alors, donc, après, l'autre chose, c'est le Mexique, qui est un pays en pleine reconstruction de sa culture gastronomique. Et donc, ces plats mexicains à base d'avocats qui font partie de ce mouvement vers le Mexique parce que c'est un pays qui a été quand même particulièrement abîmé par l'industrie agroalimentaire américaine. C'est quand même là où on consomme le plus de soda.
Mais est-ce que la puissance publique a porté justement une stratégie de l'avocat en fait? Non, mais c'est
oui. Alors oui. Pas au Mexique, mais dans beaucoup d'endroits, oui. Vous avez par exemple des villes aux États-Unis qui se mêlent de la taille des verres de soda et qui contrôlent la manière dont l'industrie offre des produits très bon marché, à très bas prix, à des volumes qui sont raisonnables. Donc c'est quand même bien la preuve que les puissances publiques jouent un rôle considérable.
Je voudrais revenir sur cette idée de la standardisation du goût. Je vais vous faire écouter une voix. Je vais pas vous dire tout de suite qui c'est. Vous allez le découvrir.
Hi, this is Bob Parker live, and it's a very special.
Bonjour à tous, c'est Bob Parker en direct. Et c'est un jour très spécial aujourd'hui puisqu'on va travailler un vin assez fragile. Un petit vin de 2003, c'est un vin qui s'oxyde très rapidement. Là, j'ai aussi un vin plus solide de 2008 et un autre de 2007. Et là, deux Châteauneufs du Pape de 2003 qu'on va voir aujourd'hui. Et cet autre vin également qui possède un vignoble très exposé, un vin qui est au carrefour entre du rouge et du blanc. Il n'y a pratiquement aucune versatilité dans ce vin. Là, on sent les fruits frais, c'est comme de la marmelade d'abricot. Ah, c'est renversant.
Et parlons vin un peu, Gilles Fumet, parce que Robert Parker, célèbre gustateur de vin américain, critique en œnologie de référence, qui est connu notamment pour avoir créé son guide des vins, avec des vins notés sur 100. L'une des innovations apportées par Parker, c'est la recherche d'une forme d'indépendance vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis des négociateurs, vis-à-vis de la presse. Il fait ses dégustations à l'aveugle, qu'il a en tout cas systématisé. Et puis, il y a cette fameuse notation, bien sûr, de tous les vins avec cette note sur 100, quelle que soit la réputation du vin en question. Parker a une influence absolument considérable sur la production vinicole. On parlait de système productif, y compris en France. Il y a beaucoup de producteurs maintenant, d'une certaine manière, qui se conforment au goût Parker, qui font comme final, qui font des vins qui vont leur plaire parce qu'ils savent que ça va leur permettre de vendre. Là, il y a véritablement, en tout cas, c'est les détracteurs de Parker dénoncent le fait que son guide, d'une certaine manière, a eu un effet de standardisation du goût du vin.
Oui, là, vous parlez du vin, des vins qui sont notés par Parker à Bordeaux essentiellement, hein, qui est la grande région de production de vins qu'on exporte dans le reste du monde. Moi, je suis pas aussi aussi affirmatif que vous, dans la mesure où justement parce que Parker veut imposer son goût, on a des vins nature, on a des vins bio, on a toute une paysannerie viticole qui se rebelle contre ça et qui va même plus loin, qui irait jusqu'à dénier à la puissance publique par l'INAO de revendiquer une forme de goût qui serait reconnu par l'État. Donc bien sûr qu'il y a une tentative, et bien sûr que ça plaît pour des gens qui veulent entrer dans le monde du vin. Je pense par exemple aux Chinois qui veulent entrer dans le monde du vin. Quand vous connaissez rien, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un système de notation. J'en profite pour dire aussi que les Américains ont quand même cette manie de tout noter. Puisque vous savez que maintenant on peut
noter. C'est une manie qu'on a bien pris aussi, hein.
Oui. On peut noter sa chambre d'hôtel, on peut noter son restaurant, on peut noter, et on peut classer les choses là. Tout ça, c'est évidemment, c'est une culture assez violente quand même, hein, parce que ça remet en cause certaines manières de faire. Mais je pense que en Europe, en tout cas. On n'a pas du tout cette culture de la standardisation, et quand vous parlez de vins qui sont standardisés, c'est pour l'exportation. Et je crois qu'en France et dans tous ces pays de paysannerie, si vous voulez, ce qui reste quand même, c'est la signature locale.
Vous parlez des Chinois. Pendant longtemps, c'est vrai que les Chinois ne consommaient quasiment pas de vin, de façon vraiment marginale. Aujourd'hui, non seulement ils en consomment, je crois que la Chine est devenue, ça y est, un plus gros consommateur de vin que la France, mais en plus, ils en produisent. Ça, c'est une vraie rupture dans les habitudes alimentaires chinoises.
Alors, c'est une rupture dans le sens où, effectivement, le vin n'était pas sur leur table. Cela dit, les Chinois consomment, font partie dans le monde de ces gens qui consomment beaucoup d'alcool à table. Et qui, vous savez, par le biais de toasts, vont faire boire ces petits verres de moutaille, hein, d'alcool de riz. Donc, ils ont la culture de l'alcool. Parce que ils savent que une bonne table avec des gens qui sont relativement détendus, parce que l'alcool, ça sert à ça aussi, à délier les langues et à faire en sorte qu'on passe dans un registre de conversation un petit peu moins guindé, un petit peu plus différent, les a ouverts en quelque sorte au vin. Et dès lors qu'ils veulent s'ouvrir à l'Europe et qu'ils découvrent que nous avons aussi des alcools à table, plus le vin que la bière, eh bien ils vont se mettre au vin. La seule chose, c'est que ils n'ont pas encore travaillé autant que les Japonais, parce que eux, les Japonais s'y mettent depuis longtemps, et le vin est entré au Japon chez les Japonais par les femmes. Et donc, par la cuisine.
C'est les femmes qui consommaient le vin, d'abord.
Qui ont apporté les pratiques de vin au Japon. Alors que les
qu'elles
hommes
consommaient
avaient,
directement ou qu'elles, oui, qu'elles utilisaient dans la cuisine?
Chez elles, parce que les hommes avaient le saké. Vous voyez, alors qu'en Chine, il y a une cuisine qui existe, mais pour laquelle le mariage avec le vin est encore, je dirais pas aussi pratiqué que chez nous. Hein, je veux dire, sur une table chinoise, le vin c'est quand même encore un objet de distinction. On va parler du prix du vin, on va évidemment donner quelques codes, mais on va surtout dire qu'on boit un vin cher.
Une pratique auquel on a recours pour prendre de la face, comme on dit en
oui,
Chine.
Tout à fait.
Hein, c'est le prestige, prendre de la face.
Dans la gastronomie chinoise, l'éclat social de son repas est extrêmement important. C'est pour ça qu'il doit y avoir du gaspillage, c'est pour ça que on insiste sur le fait que autour de la table on joue son batou à chaque fois.
Oui, et puis même si il faut aussi dire que les Chinois dans le même temps, ils consomment de plus en plus de vin et dans le même temps, ils sont très attentifs précisément à pas trop laisser de place aux cultures alimentaires occidentales. Il y a aussi cette préoccupation chez les Chinois dans le même temps. Oui. Les choses cohabitent.
Les Chinois ont un certain mépris vis-à-vis de l'Occident. Bon, l'Occident plutôt américain. Et pour eux, vraiment, tout ce qui vient de là n'atteint pas leur excellence. Donc, soyons très, très clairs là-dessus. Ils prendront ce qui leur plaît dans notre culture. Mais ils ont le sentiment qu'ils sont la civilisation supérieure. Et que enfin ils vont pouvoir se venger de toutes les humiliations que nous avons faites pendant la guerre de l'opium.
Nous parlons cette semaine de gastronomie. Aujourd'hui, on est avec Gilles Fumet, de la standardisation à la défense de l'identité, les guerres culinaires. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. On va prendre la direction de l'Italie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
La pizza napolitaine est considérée comme un plat incontournable par tous ceux qui se baladent dans le vieux centre de Naples. C'est rapide, coloré. C'est un peu comme prendre un café à l'improviste. On dit, allez, on se fait une pizza. La pizza survit aux guerres, aux calamités. C'est un monument de la ville de Naples. La pizza doit représenter le caractère et l'esprit du pizzaiolo. Ça ne peut pas être standardisé, industrialisé.
Et la pizza ne peut pas être standardisée. C'est un monument de la ville de Naples, nous dit ce pizzaiolo. Bonjour Fabio Parasecoli.
Bonjour.
Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur et coordinateur des Food Studies à la New School de New York. Quand on regarde la définition de la cuisine italienne, on nous dit qu'elle est l'addition de nombreuses cuisines régionales venant du Piémont, de Vénétie, de Campanie, de Sardaigne ou encore de Sicile. Or, toutes ces cuisines font bien sûr appel à des produits locaux, mais également à des produits importés. Dans la tradition, par exemple, culinaire de Venise, on lit toute l'histoire des marchands qui faisaient le commerce d'Europe à l'Extrême-Orient. Pour la Sicile, c'est pareil. On voit toutes les influences africaines, espagnoles, grecques, arabes. En fait, la cuisine italienne, elle est très loin d'être ce système figé et authentique au sens de pur. Cette cuisine italienne, elle est faite, bien sûr, de brassage et de mélange d'influences.
Absolument. Dans son salon de part, la cuisine d'Italie a absorbé beaucoup d'éléments d'autres cultures, soit en termes d'ingrédients, soit en termes de technique, soit en termes d'idées, de culture. En fait, la cuisine italienne qu'on connaît aujourd'hui est vraiment le résultat de ce phénomène qui dure depuis 3000 ans, de la colonisation des Phéniciens, des Grecs, des Étrusques, jusqu'à maintenant. Donc là, ce qui a changé maintenant, comme on a une idée de nation, de nationalité, l'Italie est devenue un pays depuis 1861, on a aussi l'idée d'une cuisine nationale.
Eh oui, et d'ailleurs ça c'est très étonnant parce que l'Italie évidemment a ceci de particulier, vous le rappelez, que sa construction nationale s'est faite évidemment relativement tardivement. Alors comment parler d'une cuisine italienne alors même que l'identité nationale italienne est venue bien après en réalité?
Oui, bien sûr. On a le premier livre de cuisine qu'on peut considérer italien en 1891. C'est Pellegrino Artusi qui écrit la science en cuisine et l'art de bien manger. Et c'est un livre très important parce que c'est la première fois où quelqu'un qui vit déjà dans une Italie unifiée prend des recettes des coins différents du pays, essaie de les adapter, les filtrer à travers son expérience qui est un peu toscane et d'Emilia-Romagna, mais en même temps, il crée un langage commun. Ça a été très important. Jusqu'à là, on n'avait pas un langage commun entre les différentes régions. Donc, dans le livre, il y a aussi un glossaire qui explique comment appeler les différents coups de viande ou les différents instruments de la cuisine. Donc vous voyez, c'est l'idée d'une cuisine qui soit italienne comme reflet d'une identité nationale est assez nouvelle. Mmh. Déjà, depuis 150 ans, cela a laissé une marque très importante dans la manière dans laquelle les Italiens aperçoivent leur alimentation.
Mais comment vous comprenez, et puis ensuite je donnerai la parole à notre invité ici en plateau, Gilles Fumet, mais d'abord encore un instant avec vous, Fabio Parasecoli, comment est-ce que vous comprenez que pour certains en tout cas, la cuisine italienne, et je mets des guillemets, est vue comme d'une certaine manière une tradition qu'il faudrait protéger, qu'il faudrait fixer dans l'espace et dans le temps? Comment est-ce que vous comprenez ce désir de préserver une certaine idée de la cuisine italienne? Regardez par exemple ce qui s'est passé l'été dernier. Il y a eu la publication d'une recette par le New York Times de pâtes à la bolognaise blanche, où la sauce tomate aurait été remplacée par de la crème fraîche. Ça a été très mal vécu par les lecteurs italiens, et les internautes italiens ont beaucoup critiqué cette attaque à la tradition et à l'héritage culinaire national. On a par exemple le très populaire chef italien Bruno Barbieri qui est intervenu pour rappeler les étapes fondamentales indispensables pour faire le vrai ragoût à la bolognaise. Que vous inspirent ces réactions? Elles sont le signe de quoi finalement?
Bon, en fait, ça c'est une réaction qui est commun dans tous les pays du monde. Je vis aux États-Unis, si quelqu'un essaie de faire un barbecue de manière différente, il y a une réaction très forte. J'imagine en France, si quelqu'un veut faire, coq au vin de manière un peu créative, il y aura cette réaction. Il y a des différents éléments. Il y a l'élément local, donc. Ce plat est originaire dans un lieu spécifique où il y a des manières de préparer cette recette qui sont un peu communes entre tous les gens. Et si la recette est préparée de manière différente, il y a une réaction. En même temps, il y a aussi cette idée que désormais on a une cuisine nationale. Parce qu'il y a certains plats, certains ingrédients qui sont devenus partie d'un héritage partagé entre toutes les régions. Il y a quelques années, la revue gastronomique Gambero Rosso a fait une enquête pour voir quels sont les éléments que les Italiens perçoivent comme expression de la cuisine italienne. Et il y a eu, bien sûr, les spaghettis, sauce tomate, mais aussi le pesto. Il y a eu aussi le panettone, qui, jusqu'aux années 40, était vraiment une spécialité milanaise. Mais après, avec l'industrialisation de l'alimentation, maintenant, c'est un produit qui est diffusé dans tout le pays et c'est un des symboles de Noël. Mmh. Donc, désormais, on a des plats, des ingrédients qui sont aperçus comme nationaux. Mmh. En même temps, la protection de beaucoup d'ingrédients est vraiment lié au lieu, aux traditions locales. Donc, par exemple, l'adoption des indications géographiques européennes, ça se fait au niveau local. Donc, le parmigiano reggiano, le prosciutto di Parma, ça, c'est des produits extrêmement locaux, mais que les Italiens vivent comme expression de la cuisine italienne.
Oui, c'est vrai que le lieu prend de plus en plus d'importance, évidemment, dans les gastronomies nationales, quelles qu'elles soient. Gilles Fumet, réaction peut-être sur ce cas italien, sur cette cuisine nationale italienne, où évidemment le concept d'authenticité que j'utilisais tout à l'heure est très largement à nuancer.
Oui, tout à fait, parce que je pense qu'il faut bien distinguer le point de vue duquel on se place. Si vous voulez, quand on parle de la cuisine italienne et qu'on est à l'étranger, la cuisine italienne, c'est les pâtes, c'est la pizza, c'est le parmesan, c'est tout ça. Mais quand on entre en Italie, il n'y a plus de cuisine italienne. Il y a des cuisines napolitaines, milanaises, toscanes, etc. Donc c'est quand même ce point de vue-là qui est important, hein, et qui fait que en Italie, à la différence de la France, où on a eu un système très centralisé qui a créé une gastronomie royale et aristocratique, en Italie, on a des bourgeoisies locales, oui, hein, qui vont préempter les produits locaux, et quand même, il n'y a pas de chartreuse à part,
énorme, mais il n'y a même pas ni de fromage, ni de charcuterie, et pourtant il y a du parmesan et du jambon de Parme. Donc c'est bien la capacité qu'ont les gens de Parme, de la bourgeoisie de Parme, de fabriquer autour d'eux un écosystème gastronomique qui va leur permettre, avec des producteurs locaux, de mettre le nom de leur ville et d'ensuite de mondialiser ça. Mmh. Et donc là, on voit bien la puissance de la géographie et c'est vrai que de ce point de vue-là, jouer avec les codes symboliques en mettant de la crème fraîche à la place de la tomate, c'est quand même
un crime de lèse-majesté.
C'est un peu criminel.
Fabio Paracecoli, Gilles Fumet parlait de géographie, parlait de l'endroit finalement depuis lequel on regarde les choses. Quand on regarde justement la cuisine italienne à l'extérieur de ses frontières, on voit là que pour les Italiens immigrés, la cuisine italienne a une importance fondamentale. C'est un élément central de l'identité, chez les migrants en particulier. Vous aviez écrit, je parle de ça parce que vous aviez écrit un article justement sur ce sujet-là, et notamment concernant la diaspora italienne immigrée aux États-Unis. On voit que là, la cuisine italienne est extrêmement puissante et qu'elle participe de la construction de cette identité italienne à l'extérieur de ses frontières.
Absolument. Mais il faut souligner qu'en fait, comme les communautés italiennes existent aux États-Unis depuis la fin du 19e siècle, la cuisine italienne est en fait devenue une cuisine italo-américaine qui a ses propres catégories, ses propres spécialités, ses propres traditions. Mmh. Qu'en Italie, on n'a pas. Par exemple, pour Noël, il y a ce repas des 7 ou des 12 poissons. Donc, c'est la tradition du repas de Noël sans viande, mais multiplié de manière d'une manière qui reflète la richesse que les immigrants avaient trouvée aux États-Unis. Les spaghettis là sont très souvent servis avec des boules de viande énormes que pour nous en Italie sont un peu difficiles à comprendre. Donc là, ce que j'ai remarqué pendant toutes ces années, c'est qu'en fait, la cuisine italo-américaine est devenue une cuisine à elle-même qui, d'une façon, est très fière des liens avec le pays d'origine, mais parfois a une communication un peu compliquée avec le pays d'origine. En ce moment, aux États-Unis, surtout dans les grandes villes comme New York ou Los Angeles ou Chicago, on a une nouvelle vague de restaurants italiens où des chefs d'Italie, des jeunes chefs d'Italie, proposent la cuisine italienne contemporaine telle qu'on la mange en Italie. Et de plus, ils ouvrent des restaurants qui se concentrent justement sur les traditions locales. Donc à New York, on peut aller manger dans le restaurant d'Emilia Romagna, dans le restaurant romain. Ce qui... je crois très intelligent du point de vue commercial, parce que les New-Yorkais, par exemple, sont toujours à la recherche de la nouveauté. Mmh. Et de ce point de vue, l'Italie, vraiment, a beaucoup à offrir. Donc, il y a ce jeune chef d'Italie qui propose ça, et cela souligne encore plus la différence avec le canon de la cuisine italo-américaine qui désormais existe de manière très claire. Mmh.
Merci beaucoup Fabio Paracecoli d'avoir été avec nous ce matin en direct. Je rappelle que vous êtes professeur et coordinateur des Food Studies à la New School de New York. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. On va poursuivre avec vous Gilles Fumet et peut-être s'intéresser plus encore à la question du local. Vous avez écrit un ouvrage intitulé « Manger local, manger global, l'alimentation géographique ». On peut s'interroger justement sur les limites du manger local. Est-ce que manger local, c'est une condition suffisante pour se construire une identité culinaire en l'occurrence? Est-ce que ça veut dire par exemple que s'agissant des urbains, eh bien ils sont condamnés finalement à se passer d'identité culinaire parce que précisément, bah, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent dans les villes? Et puis deuxième question qui va avec, c'est que est-ce qu'en réalité, il ne faut pas se détacher aussi un peu de son identité culinaire si l'on se fixe quand même comme objectif de manger local?
Oui. Alors, manger local, c'est le système que nous avons bâti au 19e siècle et au 20e siècle avec, entre autres, en France, pour un certain nombre de produits, les appellations d'origine. Hein. Je rappelle que origine, c'est vraiment un terme très puissant chez nous puisque ça vient du latin orior qui désigne une femme qui se lève après un accouchement.
Donc vous êtes issu de ce geste-là de votre mère. À un instant T, elle vous désigne sur, elle va désigner sur votre carte d'identité le lieu et le moment auquel vous étiez. Donc ça c'est important, mais c'est important pour nous en Europe parce que nous ne sommes pas aussi nomades que les Américains. Ouais, et donc pour nous, effectivement, l'origine c'est important. Maintenant, la manière, parce que vous parlez d'identité, la manière avec laquelle les millennials, par exemple, donc tous ces gens qui sont, tous ces jeunes qui sont nés après 1990 avec quasiment un smartphone dans la main, et qui ont une pratique de la géographie qui est complètement différente, qui travaillent sur des cartes numériques sur lesquelles on peut se promener beaucoup plus facilement que sur la carte papier, elle est en train de construire une nouvelle alimentation sur d'autres codes, hein, qui vont être en l'occurrence des codes en phase avec les grandes questions aujourd'hui et en particulier les questions environnementales.
Et on peut se construire une identité culinaire à partir de ça?
Ah oui, si la moitié de mes étudiants sont végétariens, ça veut dire que la génération qui arrive va se définir non pas seulement par le local, quand bien même il boirait du Bordeaux et mangerait du Beaufort, mais surtout par une revendication qui va passer par la résolution à leur échelle personnelle et individuelle des problèmes que pose la sauvegarde de la planète.
Attendez, mais ça c'est fondamental ce que vous êtes en train de nous dire, parce que ça veut dire que d'une certaine manière son identité, en l'occurrence l'identité culinaire, elle dépasse la région, elle dépasse la nation, elle est post-régionale, post-nationale, elle est quasiment post-géographique en réalité. Post-géographique.
Mais quand vous aurez dans quelques années, vous aurez de la viande qui sera faite à partir de cellules souches. Voilà. Et que vous aurez un steak ou un steak végétal ou un œuf sans poule, du lait sans vache. Forcément, il y a une part de l'identité qui va disparaître. Voilà. Alors bien sûr, le marketing pourra habiller ça d'un certain nombre de mythes et de symboles, mais la principale revendication, ce sera bien une revendication environnementale. Ce sera bien, je suis vegan, je suis végétarien parce que je veux, à mon échelle, à l'échelle de mon assiette, sauver la planète. Et ça, c'est un comportement que l'on voit arriver chez des jeunes qui portent en eux cette angoisse d'un monde que nous leur avons fabriqué, qui est quand même un monde fragile.
Et c'est un élément de plus à ajouter à la fameuse crise des identités nationales, la crise des nations.
Tout à fait. Vous allez voir qu'à Noël, dans les familles, les jeunes générations vont apporter quelques pratiques différentes. Hein. Vous aurez des neveux, des petits-enfants végétariens qui vont comme ça bousculer un peu l'image que vous aviez de la dinde et de tout ça et qui vont vous aider à évoluer là-dessus. Et je pense que, les jeunes générations vont faire des choix qui vont nous étonner, hein, mais qui seront pas seulement que locales, précisément parce que ils ont un rapport à la géographie qui est différent.
Et les initiatives des puissances publiques n'y changeront rien. Souvenez-vous, par exemple, en novembre 2010, quand le repas gastronomique français est inscrit sur la liste du patrimoine culturel de l'humanité à l'UNESCO, c'était aussi ce désir, d'une certaine manière, de défendre la gastronomie française, de défendre le repas français. Quand on regarde un peu les effets de tout ça, on se rend compte qu'en réalité, ils sont très modestes. En tout cas, c'est ce que disait récemment une universitaire québécoise qui s'appelle Julia Sergeau, qui a réalisé tout un travail sur, justement, les enjeux de l'inscription de cette gastronomie française à l'UNESCO. C'est ce livre que j'ai sous les yeux, « La gastronomie est-elle une marchandise culturelle comme une autre ?» point d'interrogation, qui était paru chez Menu Fretin. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que, en gros, ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Le bilan semble assez faible. Donc, va falloir se faire à ça. C'est fini, les gastronomies nationales, françaises, italiennes.
Non, mais d'abord...
J'exagère.
Oui, non mais on peut pas faire un bilan au bout de 5 ans. C'est quand même, c'est vraiment très très. Deuxièmement, en France, enfin quand même, nous parlons de chefs tous les jours dans les médias.
On a Ducasse, on a ceci, on a celui-là, on a le Michelin, on a donc il y a quand même bien des référents. Il y a quand même bien Thierry Marx, il ouvre des écoles, Robuchon ouvre son école, Paul Bocuse adoube son fils pour être pour prendre sa succession. Donc il y a une excellence gastronomique qui est culturelle, comme dit Julien Axiago, tout à fait. Mais ça crée en France, je dirais, un comportement vis-à-vis de la nourriture qui nous tire un peu vers le haut et qui fait quand même, moi j'ai jamais vu ça, qui fait quand même que quand on veut faire un mariage, eh bien on fait pas, on mange pas une pizza. Voilà, on va au restaurant, on met des bougies sur la table, on boit du vin dans des verres qui ressemblent à des calices de prêtres, on fait quelque chose de très cérémoniel et la patrimonialisation de ce repas, il contribue quand même.
Vous parlez de résistance à propos de ces végétariens, de ces véganes, etc. C'est un peu ce qu'on va évoquer maintenant. On va parler de recomposition des habitudes alimentaires en contexte migratoire. On va recevoir une nouvelle invitée qui est Elsa Mescoli. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, chercheuse au Centre d'études de l'ethnicité et des migrations, Université de Liège. Vous êtes intéressée, vous, au rapport entre alimentation et migration, à la manière dont, en contexte migratoire, on recompose les habitudes alimentaires. Vous avez notamment suivi les habitudes alimentaires d'un groupe de femmes marocaines qui résident dans la ville de Sesto San Giovanni, dans la province de Milan. C'est des femmes migrantes de première génération qui sont nées au Maroc, qui vivent en Italie depuis plus de 10 ans, qui ont entre 30 et 35 ans. Vous êtes intéressée à leurs pratiques culinaires pour comprendre comment, justement, elles participent de leur construction identitaire. Alors, première étape pour tout cela, c'est l'approvisionnement. Supermarchés, marchés communaux, boucheries halal, centres commerciaux, il y a déjà tout un travail pour trouver les produits. Elles réalisent tout un circuit, vous expliquez ça, à l'intérieur de la ville. Et ça, c'est déjà une étape très importante. Vous dites que cette typologie d'approvisionnement peut se définir comme une consommation chargée de valeurs politiques dans la mesure où les femmes pratiquent une forme de résistance à l'acculturation alimentaire et à la standardisation des modalités d'achat. On est aussi dans la résistance. Elsa Mescoli.
Oui, on est dans la résistance dans la mesure où cette diversification des pratiques est vraiment le fruit d'un choix raisonné. Donc, il y a une réflexivité que les femmes portent sur leurs habitudes alimentaires et sur leur repas quotidien. Et donc, elles se disent comment je vais composer un repas qui soit significatif, donc non seulement en termes évidemment d'apport, énergétique ou mais vraiment en termes de signification et de contenu et de représentation. Alors comment je vais créer un repas significatif par le biais évidemment d'ingrédients qui viennent d'où? Et alors il y a un choix qui se fait pour identifier ces parcours et ces trajectoires qui rendent les ingrédients significatifs. Ça peut être un parcours qui est transnational, donc des produits qui arrivent par exemple du Maroc parce qu'ils sont liés à un certain mémoire de pratiques, etc. Ça peut être aussi des produits locaux, donc qui sont achetés dans le cadre dans le contexte où ces femmes vivent au quotidien, au présent. Mais alors, où exactement les acheter, suivant quelle trajectoire, faisant quel calcul, etc. Donc, vraiment, pour accéder à des produits qui rendent le repas significatif, en dépit de ce que pourrait être donc cette standardisation qui est promue par les chaînes de supermarchés.
Elsa Mescoli, il y a un élément extrêmement intéressant que j'ai trouvé dans votre travail. Ce que vous dit l'une de ces femmes que vous avez interrogées, c'est que ces enfants sont désormais plus italiens en tout cas que marocains parce qu'ils mangent sec plutôt que humide. Les plats marocains étant dit humides parce que souvent en sauce et les plats italiens moins. Donc on voit ici que l'identité, elle est intimement liée au choix alimentaire et que en fonction de ce qu'on mange, plutôt sec ou plutôt humide, on est plutôt marocain ou plutôt italien.
Oui, disons que chez cette femme, effectivement, c'était un discours qui était porté sur ces deux caractéristiques des aliments qu'elle y voyait. Donc, elle classifiait comme certains aliments comme étant secs et d'autres comme étant humides. Elle les associait donc à la tradition italienne ou marocaine. Et elle voyait vraiment un passage. Comme s'il y avait un passage entre quelque chose qui était plutôt associé aussi à sa mémoire, au passé, et quelque chose qui était associé plutôt au présent. maintenant, voilà, c'est
oui, et puisque vous dites, Elsa Mescoli, pardon de vous couper, c'est que, à l'oreille de l'anthropologue que vous êtes, cette distinction sec-humide, elle renvoie à la théorie de Bourdieu à propos des rôles genrés dans les sociétés kabyles, avec les femmes du côté de l'intérieur, du côté de l'humide, de l'espace domestique, alors que les hommes, eux, sont situés sur l'extérieur, sur le public, sur le labour ou la moisson, sur le sec. Donc, dans ce mode de distinction, on voit que alors, je sais pas si on pourrait dire ça, mais la gastronomie italienne aurait plutôt vis-à-vis de ces Marocains, ces Marocaines, des caractéristiques masculines.
Dans le discours de cette femme, c'était le cas. C'était une analyse qui ressortait de ces mots, évidemment, bien qu'elle connaissait pas Bourdieu, cette théorisation. Donc, ça a été vraiment une démarche analytique de ma part. Mais oui, c'était un petit peu comme ça. Maintenant, ce que je voyais aussi chez elle, c'était plutôt aussi ce rapport entre tradition et modernité, qui est un rapport qui est analysé aussi au niveau des food studies par plusieurs chercheurs, évidemment, mais dans la mesure où on cherche quand même aussi à déconstruire cette dichotomie, et donc de la même manière on retrouve un petit peu une lecture différente qui peut être donnée à cette dichotomie. Donc chez cette femme c'était un peu plus lié à la question du genre, mais voilà, c'était
Gilles Fumet, sur cette question des recompositions des habitudes alimentaires, c'est passionnant, hein?
Oui, c'est passionnant. Et je dirais que moi, je suis plus sensible à l'aspect géographique, forcément.
Bien sûr.
Et au Maroc et au Maghreb en général, où là, vous avez une cuisine qui vient quand même d'Asie centrale, où le ragoût est quelque chose de collectif et d'humide, comme vous l'avez dit, évidemment, est très différent des civilisations du four, où on fait le pain, où on fait la pizza, où on a plus le sec, effectivement, où on a des produits qui se promènent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus facilement mobiles, précisément parce qu'ils sont secs. Et on voit bien ce jeu-là, en fonction des rencontres de cuisine, de la part des migrants. Vous rappelez peut-être qu'à Calais et à la Grande Synthe, les premiers lieux d'ancrage des migrants, c'est des restaurants. Ils refabriquent ces restaurants. Et là, il y a une autre dimension qui est tout simplement celle de la mémoire. Quand je quitte, j'ai évidemment la mémoire et puis le partage.
Et évidemment, on garde bien sûr quand même toujours un petit peu de son origine géographique. Et quand on regarde dans ce cas précis avec Elsa Mascoli, chez ces femmes, on a gardé par exemple la tradition du sacré couscous, évidemment, sauf que on le fait pas le vendredi parce que c'est pas possible, mais on le fait le dimanche. Donc on voit qu'on maintient d'une certaine manière l'habitude alimentaire, mais qu'on l'adapte à l'environnement.
Et puis surtout, vous parlez des femmes, ça c'est très important, le couscous des femmes et le rôle des femmes dans la transmission, dans la résistance. Vous avez parlé de ces termes guerriers, on va dire.
Ah, on a choisi ça, les guerres culinaires aujourd'hui, c'était le titre qu'on avait choisi. Merci infiniment à Elsa Mescoli qui est avec nous par téléphone, à vous Gilles Fumet de nous avoir accompagné pendant 52 minutes maintenant. Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir rappeler? Les radis d'Ouzbékistan, manger local, manger global, et puis peut-être le dernier en date qui vient de paraître, le marché aux poissons de Tokyo, Tsukiji, un marché qui va être déplacé très bientôt.
Voilà, dans quelques mois, lorsque la gouverneure de Tokyo aura pris sa décision, parce que on est revenu là-dessus, mais c'est dans quelques mois, on peut encore visiter ce marché.
On mettra évidemment toutes les références de ces ouvrages et notamment de ce dernier ouvrage avec des très belles photos, je le dis, sur le site internet de France Culture, sur la page de Culture Monde. Tout de suite, on retrouve Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors sur le plan militaire, Brice, les États-Unis pensent-ils conserver longtemps leur actuelle suprématie? Voilà la question qui va vous intéresser maintenant.
L'amiral en retraite Gary Ruthhead, qui travaille à présent pour la Hoover Institution, estime que dans les 5 à 10 ans à venir, l'avance technologique que conservent les États-Unis dans la plupart des domaines ayant des implications militaires sera rattrapée par les autres grandes puissances. Si les États-Unis veulent maintenir cette avance, dit-il, il leur faudra donc continuer d'investir dans la recherche. Et ils ne parviendront à maintenir leur supériorité qualitative actuelle que s'ils continuent d'attirer dans leurs universités les plus brillants cerveaux de la planète et surtout de les retenir. Il estime aussi que les zones de tension vont se multiplier dans un proche avenir. Or, les forces américaines sont déjà fortement sollicitées. La solution, selon lui, passe donc par un renforcement des alliances régionales des États-Unis. à l'évidence, ce n'est pas la direction que veut prendre le futur président, adepte du moi d'abord.
Mais alors, quels sont les principaux défis qui les attendent, en tout cas selon les Américains eux-mêmes?
Plusieurs think tanks observent en cette fin d'année la tradition et s'essaient à un état des lieux à destination de la nouvelle administration. Ainsi, le Council on Foreign Relations a interrogé une centaine d'experts sur le thème consacré « Le monde l'année prochaine ». Il en ressort une espèce de hit-parade des conflits possibles. Par ordre décroissant, il faut s'attendre à une crise significative en Corée. Les imprévisibles nord-coréens se dotent de missiles d'une portée de plus en plus longue. Ils se prétendent même capables d'atteindre les États-Unis. Or, ce pays, la Corée du Nord, semble échapper à tout contrôle et pourrait déclencher une confrontation majeure entre la Chine, qui le soutient, et les États-Unis, qui ne sauraient laisser passer une attaque contre la Corée du Sud, voire le Japon, leurs alliés, sans se décrédibiliser. La deuxième crise probable mettrait aux prises les États-Unis et la Russie, en Syrie ou carrément en Europe, par exemple dans les pays baltes. La troisième ne concerne pas directement les États-Unis, mais risque d'avoir des répercussions pour nous en Europe, c'est l'intensification du conflit entre la Turquie et les Kurdes, alliés tous deux des États-Unis. En quatrième place, on relève un affrontement possible entre l'Inde et le Pakistan. Il pourrait éclater à propos du Cachemire où des terroristes s'en sont pris cette année aux soldats indiens. Quant à la cinquième, c'est la cyberguerre. Cela va de l'usage de trolls rétribués sur les réseaux sociaux dans le but d'influer sur l'opinion publique et les résultats des élections, jusqu'à de possibles prises de contrôle des réseaux de distribution d'électricité en passant par le vol de secrets technologiques ou militaires.
Alors voilà pour le Council on Foreign Relations qui publie la revue Foreign Affairs. D'autres think tanks sur le même sujet?
Je vous citerai la prévision 2017 du Center for Strategic and International Studies, un document très détaillé de la taille d'un livre entier, récemment mis en ligne par ce think tank. Pour ses auteurs, quatre défis de sécurité majeurs menacent les États-Unis. Et en premier lieu, la situation intérieure du pays. La diplomatie américaine, disent-ils, est handicapée depuis une dizaine d'années par l'opposition entre la présidence et le Congrès. C'est devenu un facteur de blocage inquiétant. Un constat, je cite, « L'administration est obèse, l'économie stagnante, le pays divisé ». L'étranger constate ses faiblesses américaines et cela pousse ses alliés à faire cavalier seul et ses adversaires à s'enhardir. Trump a promis que sous sa présidence, le budget de la défense échapperait à la fameuse budget sequestration. Sequestration est au singulier, mais il faudrait aller plus loin et renoncer à la politique politicienne lorsque la sécurité extérieure des États-Unis est en jeu. Sinon, menace ce think tank, les Américains finiront par passer pour des tigres en papier. Deuxième défi, les alliés ambivalents. Trump nous a qualifiés, on le sait, nous les Européens, mais aussi les Japonais, de free riders, c'est-à-dire d'opportunistes, de passagers clandestins, de profiteurs, bref, qui abandonneraient aux Américains le fardeau de leur propre défense. Mais que veut-il exactement, demande ce think tank? Qu'ils en assument une plus grande part ou qu'ils se débrouillent tout seuls? Or, prévient le CFR, aucune des menaces pesant actuellement sur la sécurité des États-Unis ne peut être affrontée dans l'isolement. Que se passera-t-il, interroge-t-il, si nos alliés viennent à douter de la crédibilité de la dissuasion nucléaire que nous avons étendue jusqu'à eux? Que se passera-t-il si l'Europe se désintègre? Si les alliés du Golfe se persuadent qu'il faut chercher ailleurs une garantie que seuls leur procuraient jusqu'alors les États-Unis? Troisième défi, des puissances régionales plus assertives. Chine, Russie, Iran ont gagné en confiance en eux-mêmes. Et ces puissances émergentes ont pris le soin de défier les États-Unis dans une zone grise à un niveau, bref, qui ne justifie pas des représailles sérieuses. Cela passe notamment par la corruption de politiciens et de leaders d'opinion dans des pays cibles. Je cite « Nous savons ce qu'il faut faire si un de nos alliés est envahi, mais pas comment réagir face à une mystérieuse entité commerciale qui achète une banque douteuse et commence à corrompre les politiciens d'un pays allié. Ce n'est pas la guerre ouverte, mais cela contribue beaucoup à éroder notre influence à long terme en Asie, en Europe et au Moyen-Orient.
Et alors le quatrième défi ?
C'est celui dont on parlait tout à l'heure, les implications sur la sécurité de la révolution des communications. Encore une fois, imaginez qu'un ennemi prenne le contrôle de votre système bancaire, de votre réseau de distribution électrique ou de vos centres de commandement nucléaire, mais on en a déjà parlé tout à l'heure.
Merci beaucoup, Brice Couturier. On peut bien sûr retrouver votre chronique sur le site internet de France Culture. On peut podcaster, réécouter, normalement quand tout va bien techniquement, Brice. Hein, merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr demain pour la suite de votre tour du monde des idées.